franceinter.fr. Le 7-9 de France Inter, première matinale de France, à suivre aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Bonjour Mickaël Jean.
Bonjour, ça va bien?
Bien, merci. Et vous-même?
Très bien, merci.
Vous êtes depuis un peu plus de 2 ans la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. C'est la semaine de la francophonie qui commence demain. On prend d'abord quelques instants pour vous présenter à ceux qui ne vous connaîtraient pas. Votre parcours n'est pas banal. Vous êtes né en Haïti, à Port-au-Prince. En 1968, vous avez 11 ans. Votre famille fuit la dictature du Valier, se réfugie au Québec après des persécutions.
Exact, oui. En fait, comme des milliers d'autres familles, on a fui un régime qui était d'une brutalité incroyable. On a fui la répression. Mon père a été torturé. J'ai vu des gens se faire massacrer en Haïti. Bon, déjà à 11 ans, on est très très conscient de là d'où l'on vient. Et j'ai eu une éducation aussi où mes parents me disaient que l'indifférence n'était pas une option, qu'il fallait tout comprendre, tout saisir autour de soi et surtout savoir qu'on pouvait faire une différence. Et on va se retrouver... au Canada, réfugiés politiques.
Pourquoi le Canada? Beaucoup d'Haïtiens se sont exilés en Amérique du Nord, on le sait, aux États-Unis, au Canada. Mais pourquoi le Québec
en fait, parce qu'à ce moment-là, au Québec, on cherchait, alors qu'on laïcisait les écoles, on cherchait des professeurs. Et mon père a enseigné, il était directeur d'un collège en Haïti. Ma mère a enseigné aussi, elle a même mené des campagnes d'alphabétisation en Haïti sur tout le territoire national. Et on cherchait de ces professeurs laïque pouvant venir accompagner la laïcisation des écoles au Québec qui avant cela était tenue par les religieux, par l'Église catholique. Donc ça a été une chance pour nous de se retrouver dans un petit village du Québec à l'époque. Oui, c'était assez une petite communauté de Thetford Mines, communauté minière d'amiante. Et le contraste était vraiment brutal pour nous. Et il a fallu se reconstruire, repartir de zéro. Et ça a laissé chez moi une très très grande sensibilité aussi à tous ceux qui aujourd'hui se retrouvent dans cette situation de l'exode forcé,
exilé, migrante. Voilà. Et ça donne chez vous un regard particulier sur ce qu'est l'exil et sur l'esprit. Qui est celui des réfugiés.
Oui, savoir ce que c'est que de devoir partir vers l'inconnu, sans plus rien, totalement dépossédé, devoir renaître à soi-même, parce qu'on porte aussi en soi des traumatismes qui sont réels, devoir se reconstruire, et je sais ce qui fait la différence. C'est-à-dire ce que nous avons trouvé au Canada, entre autres au Québec, c'est qu'on n'était jamais seul. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un voisin, une association de quartier, en plus des services offerts par le gouvernement, les gouvernements, fédéral, provincial, municipal. Mais surtout cette solidarité réelle, c'est-à-dire que ce pays est tellement fait de gens qui ont cette même histoire que il y avait toujours la solidarité qu'il fallait pour surmonter des difficultés.
Quel est le bon mot pour ce qui vous concerne? C'est un débat chez nous, et puisqu'on parle de francophonie et de bon usage de la langue française, intégration, assimilation?
Surtout pas assimilation, non. Intégration, certainement. Intégration. C'est-à-dire intégrer un monde, c'est en faire partie. Et ce que nous avons trouvé, nous, très vite au Canada, c'est la pleine citoyenneté. Et ça, c'est remarquable. Ça nous amène aussi à devenir partie prenante de l'édification du lieu qui nous reçoit. Et avec, même si on arrive assez démuni, parce qu'on arrive sans rien, on a beaucoup à offrir. On a toute une expérience, on a une volonté aussi, dans cette volonté de se reconstruire, il y a une volonté aussi de partager et de donner.
Pendant près de 20 ans, vous avez été journaliste pour la radio-télévision publique, Radio-Canada et CBC. En 2005, vous devenez gouverneur général et commandante en chef du Canada. Ça consiste en quoi? C'est représentante de la reine, c'est
ça? Au fait, le Canada a ce système politique un peu particulier. C'est à la fois une monarchie constitutionnelle dans son lien encore avec cet héritage britannique. Mais le Canada est un pays souverain, donc nous sommes une démocratie parlementaire. Et l'exercice des responsabilités du chef de l'État est porté par le gouverneur général et commandant en chef. Et alors, ça part du Canada, n'est-ce pas? J'arrive au Canada, je ne suis pas née au Canada, réfugiée politique, partant de rien, devenant citoyenne pleine et entière du Canada, et j'accède à la plus haute fonction politique du pays. Donc, et je vais partout en visite d'État représenter le Canada, je traverse ce territoire immense aussi, et c'est une autorité morale au fait qui crée du lien. Et ça a été une expérience assez formidable. c'est-à-dire d'ouvrir ces espaces de parole, travailler sur le dialogue, sur la cohésion sociale, jouer aussi ce rôle politique et porter aussi ce qu'est le Canada à travers le monde, mais en même temps avec la mission aussi de renforcer les liens du Canada avec le reste du monde.
Aujourd'hui, c'est la francophonie, donc oui. La langue française que vous portez à travers le monde, même si vous parlez quatre autres langues, oui. Ai-je lu, anglais, italien, espagnol, créole.
Bien sûr.
Le créole haïtien. Oui. Vous comprenez les autres créoles? Vous les parlez?
En fait, on se comprend assez bien. Oui. Parfois, bon, comme il y a des expressions colloquiales qui sont différentes, mais on se comprend très bien. Et c'est formidable aussi ce monde créolophone qui est dans la francophonie.
Qu'est-ce
également.
Qu'est-ce qu'il y a de créole en vous, Michael Jean?
Tout, en fait, beaucoup. En pile, bagaille. Gavale les créoles avant, si vous voulez.
L'anglais n'a pas gagné la partie dans le monde actuel.
Au fait, vous voyez, dans la francophonie, l'idée n'est pas de se positionner contre l'anglais ou face à l'anglais, pas du tout. C'est d'être pleinement ce qu'on est. C'est-à-dire savoir que cette langue, c'est la deuxième langue encore la plus enseignée dans le monde, c'est juste. La troisième langue des affaires. C'est la seule langue avec l'anglais à être parlée sur les cinq continents. Et nous sommes 84 États et gouvernements sur les cinq continents, donc un bassin de 800 millions de population, avec 212 millions de personnes qui parlent tous les jours le français. Et c'est assez extraordinaire que d'avoir ce trait d'union là entre peuples des cinq continents pour faire, pour entreprendre, pour engager, pour coopérer, pour s'associer et porter aussi des projets ensemble, que ce soit des projets politiques sur le plan de la démocratie, les droits et libertés, l'éducation, sur le développement humain, économique durable, sur la paix. Et il faut pas en faire l'économie, hein, il faut pas s'en priver. C'est extraordinaire. C'est une vraie chance.
Mais je parlais de parties gagnées ou perdues, parce que souvent il y a des batailles d'influence entre langues. Je prends un exemple, oui. Vous l'avez illustré dans plusieurs interviews. Qui sait aujourd'hui, qui pourrait dire ce qu'est aujourd'hui la CDP21? C'est une expression que vous avez tenté d'imposer, en fait, vous avez perdu.
En fait, c'est pas compliqué. CDP21, nous, on le dit dans la francophonie, c'est la conférence des partis sur le réchauffement
climatique. Qu'on a appelé
climatique.
La COP21.
La COP, Conference of Parties.
Voilà.
Bon, alors, évidemment, en France, vous avez repris largement COP. COP, ben oui. Conference of Parties. Mais vous auriez pu dire aussi CDP, pourquoi pas? C'est fou, hein? Pourquoi se dissocier de ces mots qui sont les nôtres? Pourquoi ce rapport parfois... Il faut être complètement décomplexé quand on est francophone. Je veux dire, nous avons donné à la langue anglaise des milliers de mots, mais des milliers de mots. Et ça, pour moi qui suis canadienne et qui ai évolué, j'évolue sur ce bilinguisme, je m'en rends compte. Je m'en rends compte et c'est fabuleux de voir ça. Mais on a ce sentiment, et je vois que la tendance est très engagée en France, de se dire qu'au fait, ce qui fait plus branché, plus connecté, plus juste, c'est le mot anglais, mais pas du tout. Gardons nos mots, ils sont formidables, quoi. Et en plus, les anglo-saxons eux-mêmes s'étonnent de cette espèce de désamour, parfois, que l'on trouve en France pour le français. On ne comprend pas.
Ou on délaisse le français pour le franglais. Le français qui a été utilisé, c'est l'actualité française de ces derniers jours pour nous, qui a été utilisé pour essayer de conditionner, de restreindre plutôt, de lutter contre le recours aux travailleurs étrangers sur les marchés. C'est ce qu'on a appelé la clause Molière. Vous avez peut-être suivi cela. C'est une bonne façon d'utiliser le français. C'est un prétexte à vos yeux, Michael Jean?
Bon, écoutez, moi je pense que c'est surtout du problème dont il faut se soucier. C'est-à-dire que ces situations que l'on retrouve dans le monde, surtout dans le monde du travail, et ces situations parfois de non-droit, de non-respect des droits, c'est surtout de cela dont il faut se soucier. Dans la mondialisation, on se retrouve justement face à ce défi majeur. Et bon, voilà, je crois que souvent, mieux vaut rester sur l'essentiel du sujet que de se perdre sur la façon dont on nomme une clause.
Une question encore à la diplomate Michael Jean, à celle qui a été envoyée spéciale de l'UNESCO pour Haïti. Est-ce que vous mesurez les conséquences du budget des États-Unis tel qu'il vient d'être présenté par la nouvelle administration Trump, c'est-à-dire des coupes de 30% dans les crédits de la diplomatie et de l'aide internationale?
Écoutez, je rentre de New York où j'ai eu une séance de travail très longue avec le secrétaire général Guterres.
Le secrétaire général de l'ONU.
Le secrétaire général de l'ONU. Et il est clair que pour nous, organisations multilatérales et internationales, le défi est énorme. Ces temps-ci, avec la position américaine, qui vient vraiment procéder à des compressions majeures dans la contribution américaine aux opérations de maintien de la paix, aussi au programme de développement. Et cela touche l'ONU, mais en fait, cela aura aussi un effet domino, je dirais, des dommages collatéraux aussi pour nous tous. Et il y a aussi ce repli sur soi que l'on voit exprimé clairement aux États-Unis, mais aussi dans d'autres parties du monde, et qui mettent vraiment en péril la raison d'être même du multilatéralisme. Donc il est important pour nous, organisations multilatérales et internationales, de faire bloc et de ramener la nécessité vraiment face à ces défis immenses et ces enjeux dans le monde, de se rassembler et de faire ensemble sur le développement durable, sur ces fossés qui se creusent dans le monde, sur la pauvreté extrême, dans la lutte aussi contre le terrorisme, ces violences et ces menaces que nous devons affronter tous les jours et qui nécessitent bien sûr des fronts communs. Donc c'était là une discussion très importante pour nous, parce que par exemple l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et l'ONU travaillent ensemble depuis plus de 20 ans sur les opérations de maintien de la paix, qui pour la moitié d'entre elles se déroulent en environnement francophone, donc dans des pays francophones.
Antonio Guterres est très inquiet par...
Il est très inquiet, et nous le sommes tous.
Michaël Jean, secrétaire général de la francophonie, avec nous jusqu'à 9h, et des questions, des appels d'auditeurs tout à l'heure, dans quelques minutes, dans un instant, la revue de presse.